Alors, bonjour Céline, moi ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui puisqu'en fait tu vas sortir la VDE du copywriting, de Guide Copywriting, puisqu'en fait c'est le livre qui compte sur le copywriting en France. C'est un succès mais vraiment incroyable puisqu'en fait près de 15 000 exemplaires pour un bouquin professionnel, je pense qu'il y en a très peu qui arrive à atteindre ce niveau de vente. Donc bravo déjà. Alors est-ce que tu peux
te
présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est le copywriting ?
Eh bien sûr, bonjour Fred, bonjour à tous ceux qui regardent, qui écoutent, qui nous lisent, peu importe comment vous faites. Le copywriting, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art d'écrire pour vendre. Quand vous avez un business, vous devez écrire. On parle beaucoup de branding, on parle de marketing, mais à la fin, il y a quelqu'un qui doit rédiger tous ces messages. Celui qui les rédige, c'est le copywriter, parce qu'il va mettre les messages dans un ordre déterminé, il va donner du rythme, il va tenter de persuader, de convaincre avec les mots. Objectif, faire agir le lecteur. Et c'est ça le copywriting. On écrit de la copie. En fait, on écrit des messages de vente. On écrit des messages qui font bouger le lecteur. Et ça, pour moi, tu vois, c'est fascinant parce que c'est comment, à distance, depuis mon bureau, je vais réussir à séduire quelqu'un qui est sur son téléphone dans les transports ou dans son canapé pour qu'il achète un produit qui va l'aider à transformer sa vie. Tu vois, c'est un peu ça l'idée.
Et c'est un petit peu ce que tu disais avec les mots qui vendent, les mots magiques. C'est un petit peu ça, c'est trouver les mots qui vont tac appuyer sur le petit bouton dans notre cerveau qui vont faire que tu vas cliquer sur la souris ou appuyer sur le bouton sur le mobile.
Ah mais tout le temps, moi parfois tu vois, je lis des textes de vente, des emails de vente, des pages de vente de mes concurrents. Je me dis mais ils sont tellement forts, même moi j'ai envie d'acheter leur formation. Tu vois, alors que je sais que dedans je vais pas apprendre des trucs de fou, mais c'est tellement bien écrit et à contrario, il y a des choses que tout le monde a envie d'acheter, ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, en termes de besoins, tu vas avoir du super beau parfum, tu vas avoir des super belles baskets ou quoi. Je suis rentré dans une phase de ma vie où je vais être beaucoup plus touché par vraiment les mots et quel est vraiment mon besoin plutôt que par la hype. Tu vois, ouais. Je suis moins touché que pendant mes années parisiennes où vraiment, je pensais qu'à sortir, qu'à être super stylé et tout, à acheter des trucs dont j'avais même pas besoin. Aujourd'hui, je suis revenu beaucoup plus à un minimalisme et ça rejoint un peu ton bouquin précédent sur la décroissance. Je pense pas être dans la décroissance, mais vraiment dans quelque chose
dans la raison, l'âge de raison.
Exactement, dans une consommation qui est très, très raisonnée. Et c'est pour ça aussi que je n'écris que pour des clients que j'estime. Tu vois, des clients dont je pense que le job est intéressant et utile. Il y a des coachs que j'aime bien, pour qui j'écris, et derrière, je vais écrire pour des groupes de BTP, je vais écrire pour des tailleurs masculins, tu vois, pour faire du sur-mesure pour hommes, mais jamais je te ferai du Coca-Cola ou de la cigarette ou de la fast fashion, tu vois, parce que c'est des domaines où, non, pas besoin. J'estime
pas les
ne pas
valeurs.
En avoir besoin. Ouais.
Bah justement, là c'est, je me pose une question et que tout le monde va se poser. On parle de mots magiques, de mots qui font vendre.
Bien
Est-ce
sûr.
Que toi, tu as vu des différences phénoménales entre ce que tu écrivais, toi, et ce qui était avant, et l'impact sur les ventes? Parce qu'on peut dire, ouais, le copywriting, c'est vrai, mais est-ce que ça a un réel impact?
Ça a vraiment un impact. Alors, moi, tu sais, j'ai démarré le copywriting, c'était à la fin 2010. Tu as mon mentor. À la base, moi, on m'a payé pour écrire des articles sur la séduction. On me payait 50 euros l'article, mais j'étais super content parce que j'en pondais tellement par jour, par semaine, que ça me faisait un salaire confortable. Okay, donc, j'étais coach pour les hommes, je leur donnais confiance en eux. Et là, en fait, un jour, mon client, il me dit, tiens, écris-moi un guide du premier rendez-vous. Ok, ouais. Je sais comment on fait, j'écris ça. Une fois que j'ai pondu le produit, le PDF de 200 pages, comme un livre, il me dit maintenant tu vas écrire la page de vente.
Ouais.
Je fais, c'est quoi une page de vente? Je ne savais même pas ce que c'était. Tu vois, en 2010, j'étais pas bon là-dedans. Il me dit une page de vente, bah, c'est ton lecteur, il va lire toute la page, ça va être tellement bien écrit qu'à la fin, il va vouloir l'écrire. Ah, ok, d'accord, je vais écrire ça. Je prends une semaine pour écrire un truc. On l'imprime, il sort son stylo rouge. Mais en 2 minutes, la première page, elle était tellement rouge, la première feuille, il s'est arrêté. Il a dit, écoute, avec cette merde, on ne vendra rien du tout. tu dégages, je vais réécrire un truc. Il est parti s'enfermer, genre, mais 2 heures. Ouais. Il a écrit un truc à la va-vite. Il m'a présenté son texte. Moi, j'ai été choqué. Tu vois, ma prof de français, elle doit se retourner dans sa tombe. C'était du franglais. C'était mal écrit. C'était vulgaire. C'était pas possible dans ma tête que ce truc-là, mais arrête, ça marchera
Ça n'a
jamais, tu
jamais
vois.
marché.
Mais non. Et là, il me dit quoi? Écoute, on va faire un test AB. Alors déjà, encore une fois, j'ai dit, c'est quoi un test AB? Je ne savais pas ce que c'était. Donc, il prend le temps, il m'explique. Il me dit, OK, j'ai une base mail où il y a plus de 100 000 adresses. Donc, on va prendre 1 000 adresses. Ça va être l'échantillon A. On va envoyer ma page de vente. Et on va prendre un échantillon B. 1 000 personnes, on va envoyer ta page de vente. Celle qui vend le plus garde toute la thune. Moi, j'étais méga confiant. Mais non, mais j'étais arrogant. Imagine, en 2010, j'ai 26 ans, j'allais avoir 27 ans, donc je suis comme un fou. Évidemment, je vais le tarter, c'est sûr. La réalité, sur les 1 000 et 1 000 qu'on envoie, il vend 30, j'en vends 3.
Dix
OK?
fois
Il
plus.
m'a mis un fois 10. Donc là, je me suis dit, OK, il m'a laissé l'argent, il était très gentil. Il m'a laissé quand même mes 3 ventes. Et il m'a dit, en fait, juste, il y a un truc que tu ne connais pas, visiblement, ça s'appelle le copywriting. Il me met dans les mains un livre. Je lis le truc et c'est un univers qui s'ouvre. Et en fait, on est passé d'un moment où mes textes sur le blog, ils ne faisaient plus que attirer grâce au SEO, mais ils convertissaient. Et ça, c'est une différence de fou. Dis-toi que pendant toute une année avant de le rencontrer et d'aller travailler sur artdeseduire.com, j'avais mon propre blog. Dans ma tête, pour être connu, enfin pour vendre, il fallait forcément être connu, faire de la télé, faire de la pub, et c'est comme ça que tu allais vendre. Oui, mais là où j'étais mauvais, c'était sur la conversion, sur le copy. J'avais un très beau site, il convertissait zéro. Pendant un an, j'ai compté les clients sur le bout de mes doigts. C'était une galère. Une fois qu'il m'a appris le copywriting, laisse tomber, tu déroules, le salaire n'est plus pareil. Les résultats, c'est plus du tout les mêmes. Et après, les opportunités, c'était
Bah
multiplié.
oui, parce que tu
Donc,
écrivais plus comme un vieux prof de français ou même juste pour comme un journaliste. D'ailleurs, oui, c'est ce que tu as dit. Ne pas écrire comme un journaliste, mais écrire comme quelqu'un qui va convaincre la personne en face de toi qu'il a fait le bon choix, qu'il a trouvé la solution à son problème et qu'enfin, il y a quelqu'un qui te comprend.
non, mais c'est surtout que je suis passé d'un point de vue complètement différent. Avant, dans ma tête, c'était hihi, je suis jeune, je fais Sex and the City au masculin à Paris, je partage ma vie, c'est trop cool d'être une star. Ah, non, non, tu arrêtes de parler de toi et dans ton texte, tu arrêtes les je et tu remplaces par des vous. Et là, tout de suite, mais en fait, ça, ben, un, tu changes d'état d'esprit, tu penses à ton lecteur, parce que moi, j'ai été élevé, je voulais être Beck BD, tu vois, je voulais écrire des romans, je voulais être un publicitaire merveilleux et connu, mais pas du tout, pas du tout, c'était pas ça le but. Et une fois que lui m'a expliqué ça, une fois que je l'ai lu dans le bouquin sur le copywriting, laisse tomber, ça a été un changement total. Et aujourd'hui, je ris encore quand je lis mes vieux textes, je me marre. Parce que je me dis, ok, t'avais rien compris.
Ben justement, quand tu parles de vieux textes, là, tu vas sortir la V2 du guide du copywriting. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette Bible française du copywriting?
Écoute, alors, il y a eu des changements parce que je ne sais pas où tu sais, on se souvient un peu tous, on était le 11 septembre
Septembre.
2001 et je pense qu'on va tous se souvenir, on était aussi en novembre 2022 quand ChatGPT est sorti,
Ouais.
tu vois, parce que ça a été un vrai, vrai, vrai tournant. En gros, la première édition du guide du copywriting, elle était jaune. Alors attends, où est-elle? Elle est là. Elle est ici. Donc celle-ci, elle sort en mars 2021 et c'est chouette. Elle se vend bien. J'ai eu beaucoup de chance parce que oui, il est bien écrit, mais le timing. Tu vois, le timing. Il n'y avait plus rien sur le marché français à ce moment-là. On sortait du Covid. On entrait dans le troisième confinement, okay, en mars-avril 2021. Donc le timing, il était très bon. On va dire beaucoup de gens qui étaient en burn-out, qui en avaient ras-le-bol de leur job, qui
Ouais.
voulaient changer. Et on a beaucoup parlé de copywriting. Mais les deux, trois qui étaient super connus sur le marché, ils ne vendaient que en ligne. Il y avait un espace de fou en librairie. Okay? Donc le timing a été important. Maintenant, un an et demi après, en novembre 2022, tu as ChatGPT qui arrive. Waouh, waouh, waouh. Tout à coup, la compétence d'écriture, elle est disponible à tout le monde. À peu près, OK, en 2022. Maintenant, on est 3 ans plus tard, c'est pas à peu près. Maintenant, l'IA, elle te fait des textes 95-97% bien, si tu sais quoi demander. Et c'est ça qui fait que le guide du copywriting V2 va être important, va être intéressant. En gros, tu sais, c'est les Américains, ils disent toujours « you don't know what you don't know ». En français, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est logique. Si tu ignores le copywriting, tu vas demander « bonjour, ChatGPT, écris-moi un texte qui donne envie ».
Ouais.
Ok, sans trop savoir. Imagine demain, tu lances ta marque de compléments alimentaires. Tu vas « écris-moi un texte qui convertit ». Ok, mais si maintenant tu connaissais tout l'univers du copywriting, utilise la structure PAS pour me rédiger un mail, utilise la structure BAB pour me rédiger un post LinkedIn. Là, tout à coup, tu vas lui demander plus de choses, l'IA va être encore plus spécifique. Donc, cette nouvelle version, je l'ai pensée en me disant, ok, tu as des lecteurs, tu as des étudiants, tu as des directeurs marketing ou des community managers, peu importe, n'importe quelle personne qui bosse dans le marketing et qui doit rédiger des textes n'a pas forcément été formée à l'écriture qui fait cliquer, à l'écriture qui persuade. Okay ? On parle souvent écriture persuasive. Bon, le bouquin, il est là. Ok, mais maintenant, il y a l'IA. Donc, ils ont encore moins de raisons de lire un livre, évidemment. Là, la réflexion, ça a été de me dire, qu'est-ce qu'il y a en trop dans la version 1, qu'est-ce qui n'est plus utile? Donc, j'ai commencé d'abord par reprendre la V1 et enlever tout ce qui ne me paraissait pas approprié pour 2025. Il y a des passages qui étaient trop longs dans la première version, il y a des passages qui étaient un peu inutiles, d'accord? Il y a dû avoir une dizaine de pages au total où j'ai mis un grand coup de crayon, genre, allez, ça dégage, on l'enlève. Moi, j'ai eu de la chance. J'avais 5 auteurs de V2 autour de moi. Il y avait toi, Fred, tu m'as prévenu. Il y avait Aurélie Moulin, il y avait Guillaume Lamar, il y avait Gauthier Eloco et il y avait Stéphane Truffem. J'ai envoyé un mail avant de commencer l'écriture à vous cinq en demandant « Les gars, je me lance dans l'écriture de la V2, je dois savoir quoi ?» Mais toi, ta réponse, tu m'as tué. Genre vraiment, non, ça va prendre du temps parce que tu vas faire ça, 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 ça.
Je suis là, waouh, waouh, waouh. Un tiers de bouquin à chaque fois.
Et oui, mais oui, moi je pensais vraiment mettre 2 semaines. Mais je te dis, j'ai mis 2 mois. J'ai mis 2 mois. C'est de la dinguerie.
Bah, surtout en fait que tu ne l'as pas réécrit. Tu as intégré l'IA à l'intérieur et ça, c'est totalement différent parce que c'est plus qu'une mise à jour, c'est une évolution, quoi.
Mais c'est ça. Et puis surtout, alors déjà, étape 1, dégraisser. Enlever les parties plus forcément utiles. Avec mon regard de 2025, l'autre, je l'avais écrit en 2021. Enfin, en 2020, il est sorti en 2021. Donc, à l'époque, j'avais 10 ans d'expérience. Maintenant, j'en ai 15. Maintenant, ma carrière, elle s'est accélérée. J'ai bossé pour encore plus de gros clients.
Ouais.
J'ai formé des jeunes, des moins jeunes, mais j'ai formé des gens au copywriting. J'ai formé dans des entreprises au copywriting et à l'IA. Donc, ça veut dire que j'ai mangé pendant 5 ans beaucoup plus de questions de débutants. Alors qu'au moment où je l'avais écrit, la V1, dans ma tête, c'était, tu sais, toujours un peu cette malédiction de l'expert. Attends, il faut que je sois vraiment très high level pour aider tout le monde, machin. Non, il faut se reposer les questions des débutants parfois. Donc, cette V2, elle est forte de toutes ces questions que j'ai pu rencontrer au cours des 5 ans, de la mise à jour avec l'IA et de toutes les missions que moi j'ai vécues aussi, de tous les cas concrets que j'ai vécu avec mes clients. Et c'est pour ça que quand je me présente, c'est toujours formateur en copywriting et copywriter. Parce que c'est facile de juste être vendeur de formation. Et je ne veux pas faire ça. Je veux continuer de garder les pieds sur le terrain pour emmagasiner d'expérience.
Oui, voilà, c'est ce qu'il faut faire.
Les trois grosses nouveautés, c'est ça.
Et l'IA a vraiment changé les choses. Alors moi, je faisais des cours de gros hacking en école de commerce et j'avais un tout petit module de 2 heures où je donnais les bases du copywriting, mais vraiment les bases. Donc, je parlais de ton bouquin, bien entendu. Et c'est vrai que j'étais tout juste content lorsque les étudiants étaient capables de transformer une caractéristique en bénéfice.
En bénéfice,
et ça, c'était avant 2022. Et en 2023, c'était... attendez, on va écrire un texte en utilisant les structures de copywriting. Et là, avant les étudiants, j'étais vraiment content. Caractéristiques bénéfices, ça faisait partie de l'interro final pour essayer de voir si au moins ils avaient compris ça, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et là, tu peux avoir la structure d'une page, tu peux avoir différentes structures. Alors justement, est-ce que l'IA va remplacer les copywriters? Parce que tu me dis, l'IA peut aider, va faire pas mal de choses. Est-ce que c'est la fin de ton boulot, Selim? Tu vas mettre un GPT ou un Skills Cloud et puis c'est fini.
Écoute, alors, Pas totalement. Je te dirais que là, je lis beaucoup en ce moment, forcément, parce que je forme moi-même. Tu vois, là, j'étais chez des clients cet été, des clients très prestigieux sur les Champs-Élysées pour les former IA et copywriting, parce qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, là, dans les news, c'est quoi? C'est les gars chez McKinsey, les seniors dans les banques aussi, ils forment les IA. Okay, tu as des gars qui viennent programmer les IA avec les skills, les connaissances vraiment des seniors pour remplacer les juniors. Aujourd'hui, les juniors sont les plus impactés. Les diplômés, ils sont en train de remonter en niveau de chômage, en taux de chômage, parce que ils n'ont pas l'expérience nécessaire. Ils font tout avec ChatGPT depuis 2-3 ans, ok, mais ils savent pas trop ce qu'ils font. Est-ce que ça va nous remplacer? Je dirais les plus jeunes, je dirais les mauvais ou les moyens. Okay. Maintenant, ceux qui ont une vision et de la connaissance et qui savent faire les choses, qui vont avoir les résultats, ils vont continuer d'être un peu in demand. Je pense quand même qu'il va y avoir de la casse, c'est certain, hein, quand on regarde les chiffres sur toutes les plateformes de freelance. Les demandes, elles sont moindres en rédaction et en copie. On a été touché en traduction, idem. Okay. Donc oui, la demande, elle va baisser. On voit quand même un petit mouvement de reflux avec des boîtes qui licencient, puis qui réembauchent à cause de l'IA. Mais globalement, je pense qu'on va quand même vers un gros casse, vers de la grosse casse. Je lisais un truc pareil sur l'IA où il disait, ouais, tout le monde dit qu'au final, la dernière révolution industrielle, elle n'a pas créé du chômage. Et là, le gars, il le dit très bien, ouais, chez les humains. Pas pour les chevaux. Les chevaux, eux, ils ont perdu leur taf. Tu avais 26 millions de chevaux en France avant. Post-révolution industrielle, tu n'en as plus que 3. Parce que la machine a fait le taf. Et là, on te dit, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que le cheval d'aujourd'hui, c'est toi. Le banquier qui fait des fichiers, ah, pardon, mais l'IA, elle va le faire plus vite, mieux que toi. Sortir des textes moyens, mais qui font vendre. OK, l'IA, elle va pouvoir le faire de manière assez rapide. Et de faire un GPT ou quoi, moi j'ai mis un GPT à disposition, bien sûr. Il s'appelle, tu vois, mon prénom, c'est Lim. Et ben, tu mets un A juste avant le I pour faire, c'est Lime, c'est
Limia.
AI exactement. Donc ça fait c'est Lime et il est dispo sur ChatGPT uniquement. Je ne l'ai configuré que là-bas et il donne de très bons résultats, évidemment. C'est le jeu, ok?
Donc
Là
c'est un
maintenant, il va falloir.
premier niveau que tu dois retravailler, en fait, c'est ça?
C'était qui? Je vais manger le nom de la boîte, mais je ne sais pas si c'était le PDG de Slack ou de Fiverr récemment qui a dit en fait, ce qui était facile hier n'existe plus aujourd'hui. Ce qui était moyen est devenu facile et ce qui était dur est devenu la norme. Donc là, vous vous mettez à jour. Vous vous mettez à jour. Là, on entre dans une ère où, quelque part, on va dire, ça devient un petit peu plus démocratique, le moindre gamin qui a envie de s'en sortir et de se faire mal dessus et d'apprendre, il peut aller creuser. Et il peut faire, tu vois. Et là, sur cette discussion du diplôme ou pas diplôme, le diplôme, ok, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là que bah, moi non plus, je ne dois pas me reposer sur mes lauriers, tu vois. C'est ok, je vois ça comme un Tetris. Je ne sais plus avec qui on avait discuté de cette notion de OK, 15 000 ventes. Mais tu vois, Tetris, tu as fait ta ligne, boum, elle disparaît. C'est quoi la suite? Évidemment, ça ne disparaît pas vraiment. Tu as emmagasiné de l'expérience, comme dans les jeux vidéo, des points d'expérience. Tu as gagné en autorité. OK, c'est bien ton autorité, mais vas-y, qu'est-ce que tu sais faire là, aujourd'hui, en 2025? Et ça va être épuisant pour beaucoup de monde. On va devoir apprendre plus, on va devoir bosser plus.
Non, mais
Je trouve
je suis d'accord avec
ça.
toi. L'IA est en train de prendre une partie des jobs de premier niveau. Ça permet de faire, même parfois, comme tu l'as dit, hein, tu n'as pas forcément besoin pour faire un post LinkedIn. Moi, je vois, le volume de post LinkedIn a augmenté et c'est vrai que ça fait le job. Mais maintenant, le problème, c'est que la qualité nécessaire pour gagner en visibilité, déclencher une émotion ou faire passer quelqu'un à l'action, il est remonté aussi d'un niveau.
Oui,
Donc tu peux
mais
pas juste faire un post LinkedIn et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn parce que tu travailles les visuels, tu travailles le carrousel et c'est pas le simple texte. C'est ce niveau de qualité touche aussi le copywriting, touche aussi des pages de vente et tout ça veut dire que ok tu peux avoir un travail de base mais est-ce que ça suffira encore à convaincre?
c'est ça, et visiblement, pour tout le monde, hein, le coût d'acquisition a augmenté. Et c'est à chaque fois sur chaque plateforme. Pour acquérir des clients au début, c'est facile parce qu'on n'est pas nombreux à poster. Puis on est de plus en plus à poster. Et là maintenant, avec l'IA, bordel, tout le monde peut poster du niveau de base. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de. Là, je l'ai écrit l'autre jour, le mot qu'ils ont mis en avant les Ricains, c'est le slop. Du contenu de mauvaise qualité, produit en quantité industrielle, c'est pas bon, ça va vite et tu manges tout ce contenu qui est nul. Moi, je te promets, au quotidien, je fais des copies d'écran de tous les posts qui sont vides, qui enfoncent des portes ouvertes, qui sont nullissimes. Mais c'est dramatique, tu vois. Et je me dis, mais attends, comment on a pu en arriver là? Mais c'est normal. Tu as des gens qui ont expliqué, c'est l'algorithme, il faut le nourrir, donnez-leur, ne lâchez pas tous les jours ta petite croix comme il s'appelle, Jerry
Tapestry.
Seinfeld. Tu vois, voilà, Jerry Seinfeld, tu fais ta croix tous les jours, tu lâches jamais ta chaîne de production. Tous les jours, tu produis du texte. L'autre jour, j'en ai vu une, elle faisait quoi? Elle me poste un truc. Oh non, non, il est 3h du mat, j'arrive pas à dormir. Vous voulez pas me raconter une histoire? Tout ça pour faire du reach sur
Non.
LinkedIn. C'est dinguissime, tu vois. Et moi, je collectionne tous ces posts
Mais quelque
mauvais.
part, est-ce que ce n'est pas du copywriting, ça aussi,
Ouais, non, mais attends, le copywriting, c'est pas juste. Alors, attends, parce que j'ai une histoire là-dessus. Le copywriting, effectivement, la première des missions, c'est capter l'attention. OK? Et donc là, elle capte très bien. Et c'est très, très facile de capter l'attention. Tu insultes les gens, tu montres un peu plus de peau que prévu, tu racontes des trucs complètement what the fuck. C'est facile. Un jour, j'ai eu un apprenti copywriter qui m'a dit, Selim, j'ai trouvé comment je vais faire pour avoir des clients. Je suis
Ouais.
allé dans des cafés et au dos de mon écran d'ordinateur, là, au dos de mon ordi, je vais mettre un autocollant d'une croix gammée. Comme ça
Non.
va attirer l'œil. Je te promets, je lui ai dit,
Il
mais
est fou.
t'es débile ou t'es débile? C'est quoi le problème dans ta tête? Mais si les gens, ils vont me regarder, eh, vous avez vu, je sais attirer l'attention. Je peux faire pareil pour votre job.
Là, tu m'as attiré
Malheureusement,
l'attention dans le mauvais sens.
Mais oui, non, mais hey, le problème, c'est qu'à force d'avoir des débiles qui te racontent des trucs du genre qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi, ça rentre dans la tête des gens. Okay? Et donc, tu as un nivellement par le bas qui, moi, je suis catastrophé. Okay? Mais là, tu le disais, est-ce que ce n'est pas le job des copywriters? Oui, attirer l'attention, mais avec un vrai programme derrière. Sauf que, avec les réseaux sociaux et toute cette époque du quart d'heure de gloire, aujourd'hui, on parlait de Kim Kardashian, famous for being famous. Tu vois, elle est célèbre. Pourquoi? Ben, elle est célèbre pour être célèbre. Elle a commencé grâce à la célébrité, mais il n'y avait rien derrière. Elle a transformé cette célébrité et maintenant elle vend des trucs. Mais au départ, c'était juste de la pure influence, du pur chiffre, parce qu'elle était suivie. Et par rapport aux compétences, tu vois, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Je me pose la question. Hier, on discutait avec des potes quand j'étais à Paris là, pour signer le guide du copywriting deuxième édition. Tu as des gars qui sont dans des vraies grosses boîtes, qui sont directeurs financiers et qui me disent, mais c'est dramatique. Genre, il n'y a plus une slide, il n'y a plus un fichier qui n'est pas corrompu par l'IA avec des mauvais chiffres. Les juniors qui utilisent l'IA, ils font n'importe quoi, ils me livrent des chiffres, ils comprennent même plus ce qu'ils font. C'est
Ouais, c'est vrai que cette
dramatique.
perte de sens, elle est importante parce que moi, je le vois, toi, ma fille est au collège, elle vient rentrer en sixième, et on est en train de refaire des maths à l'ancienne,
Mais oui.
avec division, machin, et tout ça. Et tu me dis, merde, j'ai un petit peu oublié tout ça. Alors qu'avant, j'étais capable de faire tous les calculs de tête.
Mais
Donc, en
évidemment.
fait,
Ah non,
ça,
mais
on est en train
alors,
de le perdre.
on est en train
Même
de
pour
le
le copywriting.
perdre.
Tu vois, justement, tu parles du copywriting. J'utilise très régulièrement l'IA pour rédiger. D'ailleurs, toi, mon outil préféré pour trouver des accroches, c'est plus DeepSeek que ChatGPT. Je trouve qu'au niveau
OK.
de la créativité, il est vraiment
OK.
très très bon. Il donne vraiment des trucs un petit peu originaux. Autrement, ChatGPT tombe tout le temps sur la même soupe, comme tu dis, le slop. Je me force maintenant à réécrire parce qu'en fait, avec ma collègue Chantal, on avait un peu trop tendance à faire tourner l'IA, à faire un post.
Eh oui.
Et c'était toujours un peu la même chose. Et j'ai perdu. Le cerveau est un muscle. Si tu ne le fais pas
Complètement.
travailler régulièrement, il se rouille et ça devient plus dur. Et je me dis, moi qui ai quand même une expérience d'écriture pendant de nombreuses années, comme toi,
Mais c'est ça.
quelqu'un jeune qui arrive et qui n'a pas eu cette structure-là, bah, ça va être compliqué pour lui s'il est tout le temps avec ChatGPT. Surtout, ChatGPT, comme je le disais, a quand même une tendance à se répéter. Tu demandes de sortir des titres. Ben, nous, on fait souvent ça, des titres de webinaires, des titres,
Bien
parce qu'on fait
sûr.
beaucoup des salons, des machins. Et ça tombe un petit peu surtout. Là, ce que je déteste, c'est maintenant, c'est à l'ère 2. Je sais pas si tu l'as vu, mais le marketing à l'ère de l'IA,
L'ère de l'IA, c'est
la
déjà ça.
vente à l'ère
Attends,
de l'IA.
dis-moi, quoi? Bienvenue dans l'ère du copywriting augmenté par l'intelligence
Oh
artificielle.
là
Mais je l'ai écrit
là!
moi-même. Tu vois, je l'ai écrit moi-même. C'est ça
Eh
qui est
ouais, mais
fou,
ça,
c'est
tu
que.
l'air, combien de fois je l'ai entendu celui-là? Et le problème, c'est que c'est comme l'invisibilité de la publicité, hide blindness, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand c'est tout le temps les mêmes mots, eh bien finalement, ça ne fonctionne plus.
Ah, c'est ça, tu percutes plus du tout. Non, non, c'est très compliqué. Et puis surtout, en fait, va expliquer la philosophie derrière à des jeunes qui sont morts de faim, qui veulent bosser, qui ont cet outil-là. Qu'est-ce qu'ils vont m'écouter, moi, quand je dis non, mais prenez le temps de retravailler vos titres, écrivez à la main et tout. Ils sont pas là. Ils rêvent de Dubaï, ils rêvent de la plage, ils rêvent de Lambo. Laisse tomber. Tu vois, c'est que c'est très, très, très compliqué aujourd'hui de mettre en avant l'effort, de valoriser ça. Ce n'est pas possible. C'était un programme politique par le passé. Revaloriser le travail, la valeur travail. Okay? Qui a envie d'entendre parler de travail aujourd'hui? Qui a envie d'entendre parler d'effort? C'est impossible. Tu vois? Hier, j'ai posté un truc sur un carrousel sur le mot magique mieux. On veut mieux, on veut plus. Ok, mieux, c'est encore mieux que plus. C'est vraiment, on veut mieux, ce qui se fait de mieux. Et dans les années 60, le fondateur de DDB, donc Bill Bernbach, ils sont trois, mais Bill Bernbach, il dit cette phrase, il dit, ne me parlez pas de tendance. Moi, ce que je veux, c'est parlez-moi de l'homme éternel, l'homme avec un grand H, ok, des besoins de l'homme éternel. Et en fait, cette phrase, elle est importante parce que la base d'Amazon, la philosophie d'Amazon, Jeff Bezos, il fait trois trucs quand il crée Amazon. Plus de choix. L'homme voudra toujours plus de choix. Plus vite, livrer plus vite, toujours évidemment. Plus, moins cher. OK? Plus de choix, livrer plus vite, moins cher. Ça, c'est le modèle des Chinois, de Shine, Chine, machin, de Temu, de tout ça, d'Amazon. Et ça fonctionne. J'explique ça en mode pédagogie, vraiment. Et tu as des gens, tu as toujours des gens qui vont s'opposer. Ouais, non, pas du tout. Ce que tu dis, c'est pas adapté à l'époque. Écologie, décroissance, tout. Mais je sais, tu as raison. Ça existe. Le mouvement que tu prônes, je pense que c'est bien. Mais l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Pense TF1, ne pense pas parisianisme, bobo, écolo, machin. Pense juste à la France, des gens qui
Oui,
passent à
puis
côté de ça.
c'est selon ta cible. C'est comme
C'est
tu l'as dit, si
exactement
tu t'adresses
ça.
à tout le monde, un Français, tu dois avoir le langage du français moyen. Tu ne peux pas parler le langage du bobo parisien qui est écolo et qui va en vélo. Alors
Mais
moi, je vais
bien
en bus
sûr.
et en transport et tout ça. Mais voilà, il faut se dire que tes mots doivent parler à ta cible.
C'est
Et c'est
ça.
ça l'art du copywriting. Moi, je le vois. Et encore, moi, tu vois, je travaille de plus en plus, quand je fais des textes, à essayer d'exprimer en fait de l'émotion, de la
Oui,
personnalité
bien sûr.
et de m'éloigner du corporate. Là, ça fait 2 ans qu'on se challenge pas mal avec ma collègue Chantal,
OK.
qui est amatrice de belles lettres, de beaux mots et de
J'adore.
beaux français. Et parfois, c'est vrai que on se challenge nous-mêmes sur les textes parce qu'on se dit, mais il en faut, mais pas trop peu, ni trop. Et c'est vrai que moi, j'essaye plutôt de mettre plus d'émotion dans mes textes, de parler de moi, pour essayer de. Enfin, moi, je dis de plus en plus, je veux sur mes articles de blog, tu vois, je suis
Mais
passé à
bien sûr,
je
mais
pour
évidemment.
essayer de créer du lien avec l'autorité. Par contre, sur le blog d'Eloquent, on reste toujours sur un langage assez corporate,
Bien
assez,
sûr.
etc. Et j'essaye de faire passer cette émotion, cette authenticité qui est importante, hein.
Et alors, tu vois, et là, ça rejoint la question qu'on se posait. OK, on fait comment quand on écrit tous pareil? C'est la suite. C'est la prochaine vraie compétence. C'est la prise de parole en public et c'est la vidéo. Parce que vu que maintenant, n'importe quel débutant va juste cloner tout ce qu'il y a écrit dedans, et je le vois. Sur LinkedIn, tous les gars qui parlent de copywriting, ah, ça, je sais d'où ça vient, cette anecdote, je sais où tu l'as trouvée. Et c'est très bien. OK? Comme ça, le savoir, il se transmet. C'est très, très bien. Mais comment tu te démarques dans un univers de clones? Là, il va falloir avoir ton univers avec tes clients, avec ton expérience, avec ta manière de parler et tes émotions. C'est pour ça, quand tu dis que tu essaies d'injecter un peu plus d'émotions dans les textes, mais complètement. Complètement. Et c'est ça vraiment la suite. Et je pense que c'est là où je ne suis pas encore suffisamment bon parce que je refuse encore pour le moment d'exprimer trop vraiment qui je suis. Tu vois, je reste quand même corporate parce que j'ai des gros clients qui sont corporate. Donc je ne peux pas aller, et c'est un de mes problèmes marketing depuis des années de toute façon, c'est tu as le très très chaud, tu as le très très froid. Moi je suis dans la nuance. J'ai appris à penser dans la nuance, j'ai appris à m'exprimer dans la nuance. Quand je regarde les deux côtés du spectre, le très chaud masculin, le très chaud féminin, on ne peut pas se parler. Je ne peux pas leur parler. C'est trop différent. Ils sont OK pour avoir un positionnement très agressif. Moi, dans aucun monde, il n'y a pas moyen. Parce que je ne suis pas comme ça. Tu vois? Et que ça vient de l'éducation, ça vient de quelle société tu veux. Et en fait, c'est plus profond que juste quel tone of voice je vais utiliser dans mes textes. C'est vraiment, non, non, mais attends, je suis un être humain, quelle valeur j'ai envie de faire passer quand je vois des gens qui parlent que de thunes? Je peux pas, je suis français,
Bien
tu
sûr.
vois. Non,
Moi,
non, mais
j'essaie de remettre de l'humain.
bien sûr.
Sur LinkedIn, j'essaie enfin, autant que je peux. Alors, pas forcément me mettre moi, mais je sais que c'est ce qui marche le mieux, mettre une photo de toi. Mais par exemple, j'aime bien mettre des photos de selfies. Quand je vais sur un salon, quand je vais sur un événement,
Bien
moi,
sûr.
à chaque fois, mes collègues, ils rigolent parce que je dis, hey, on se fait un petit selfie. Et ils disent, mais tu fais la course au selfie. Non, c'est pas la course au selfie, c'est que j'aime bien humaniser. J'aime bien voir qu'on s'est vu ensemble. Et là, par exemple, j'étais déjeuner avec un ancien collègue de bureau que je connais depuis 25 ans. Et j'ai dit, mais tiens, on prend un petit selfie, et puis après je fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Il m'a dit, hey, finalement c'était vachement intéressant parce que on a échangé, toi tu as réussi à capter les 5, 6, 7, 8 idées qu'on a mis ensemble,
C'est
tu l'as mis
ça.
là, et tout le monde me dit, ah ouais, c'est vachement sympa parce que c'est de l'anecdote, c'est de l'humain,
Mais oui.
c'est comme tu dis, tu crées de l'authenticité et tu crées ainsi de la confiance.
Tu fais comment? T'as un, comment ça s'appelle? Pno? Plo? Comment ça s'appelle? T'enregistres avec quoi?
Non, non, c'est
Non,
ma
juste de
mémoire.
tête? De mémoire?
Mais tu sais, quand tu moi ce que j'aime bien, c'est tu crées du lien quand tu discutes avec quelqu'un et tu déjeunes avec lui et tu retiens 3, 4, 5 idées. Et puis c'est
Ouais,
vrai
bien
que
sûr.
pendant que tu discutes, alors j'essaye de te concentrer sur la personne, pas avoir le téléphone, etc. Et après je me dis, tiens, ouais, ça a été intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et quelque part, tu valorises la personne qui est en face de toi. Toi aussi, tu apprends des choses. Et c'est vrai que moi, c'est une de mes manières d'apprendre, c'est d'écrire. C'est pour ça que j'ai fait du blog. C'est
Mais bien
que
sûr, mais non, mais
écrire les
évidemment.
choses, bah comme tu as dit, le copywriting, c'est ça aussi. Si tu t'entraînes à écrire, finalement, tu vas t'améliorer. À un moment donné, il y a une question de volume et d'entraînement.
C'est totalement vrai. Et c'est pour ça que les formations, ça prend du temps. Tu vois, aujourd'hui, tu lis un bouquin, tu appliques avec ChatGPT, Claude, DeepSeek, ce que tu veux, ça va très vite. Tu peux avoir des premiers résultats assez rapidement. Mais maîtriser derrière vraiment, ça prend un peu plus de temps. Est-ce que les gens ont envie de le prendre ce temps? Je ne suis pas sûr. On
Alors
va voir.
justement, sur les méthodes de copywriting, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles sont en fait toi ta structure préférée? Parce que tu en as parlé du PAS, du Pastor, du BAB, de l'AIDA. Quelles sont les structures de copywriting que tu préfères ou quelles sont pour toi les structures de copywriting plus adaptées pour une page de vente, pour un post LinkedIn? Alors on parle encore d'articles de blog, même si maintenant on parle plus. Enfin, je pense qu'il faut plus parler en je vais écrire un article de blog, mais je vais écrire un contenu sur telle valeur que je vais déployer sur un article
C'est
de
ça.
blog, une vidéo, un podcast. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire actuellement, ben, on va le retrouver sur un article de blog, sur un short et sur un post LinkedIn au
Oui, bien
minimum.
sûr. Et c'est ça. Alors, tu parlais de valeur. Moi, je parle encore en mots-clés aujourd'hui. Okay. Tel mot-clé. Allez, copywriting et IA. Qu'est-ce qu'on va écrire? Ça va être quoi la grosse page sur le sujet? Comment on va décliner ensuite sur tous les supports? Et c'est fascinant de réfléchir en termes de machine à contenu comme ça. C'est épuisant parce que par rapport au moment où on a pu se connaître 2010-2012, bah à l'époque, bon voilà, tu avais ton article de blog, ta newsletter et il y avait Facebook beaucoup. Oui, il y avait Twitter et c'était les débuts d'Instagram. Tu vois, Instagram, c'est 2010 et c'est 2012 pour nous, les gars, sur Android. Mais là, aujourd'hui, avec la multiplication, elle est folle. Quoique 2010, je faisais déjà aussi du YouTube. Donc, c'est beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je réfléchis toujours en termes de PS, même pas PAS, PS, problème-solution. OK, c'est quoi le problème sur cette thématique? Quelle est la solution? Et ensuite, je vais regarder par rapport à toute ma trousse à outils. Le problème, c'est ça. Donc, je vais quasiment toujours commencer mes intros par du problème. Okay. Même si je pourrais commencer avec une jolie citation ou avec des chiffres, une étude, des statistiques, un extrait d'un bouquin, peu importe, je pourrais rentrer par plein de manières dans un texte, comme un journaliste, okay, une intro, on peut avoir plusieurs types d'intro. Je préfère rentrer sur le problème parce que, toujours en termes de comportement consommateur, analyse du lecteur, il vient d'où ? C'est rare qu'il vienne de mes réseaux, il est venu via Google ou peut-être qu'il vient via ChatGPT aujourd'hui. Donc, il a un problème, il a une douleur, il recherche une solution. Je vais directement lui dire, oui, tu as ce problème, donc tu es à ta place ici, je vais te donner les solutions. Et ensuite, je vais réfléchir sur ma structure. OK, à l'intérieur de ce texte, il va falloir quand même qu'il sente que je suis un humain. Il va falloir qu'il rigole un peu. Il va falloir que je lui donne sa solution, évidemment. Il va falloir qu'il voit que je suis sérieux, que la solution marche, pas que pour lui, mais aussi pour les autres. Je vais prendre, en fait, mes grilles de lecture du monde. Cialdini, toujours. Influence et persuasion. Il s'appelait pendant les années influence et manipulation, maintenant influence et persuasion. Il y a 7 principes. Quels sont, parmi les 7 principes d'influence, ceux que je peux intégrer? Je me fais ma checklist, je relis, ça y va, oui, non. Tu ne peux pas toujours mettre de l'urgence et de la rareté, par exemple. Okay, ouais. Donc, allez, ça dégage. Mais si je peux mettre un peu d'unicité dedans, ok, je vais mettre de l'unicité. Si je peux dire qu'on est dans la même équipe, toi et moi, ok, cool, on va s'identifier. Ensuite, je vais reprendre une structure qui est assez similaire, qui est le son casse. Okay, le son casse ou son case aujourd'hui. Donc, le S de la sécurité, c'est les motivations d'achat. Le S de la sécurité, le O de l'orgueil, le N de la nouveauté, le C du confort, le A de c'est l'argent. Son casse, le dernier S, la sympathie. Et tu finis avec l'éthique. Okay, tu finis avec l'éthique environnement. Comment ils vont réagir les gens? Est-ce que je peux aller checker? En fait, tu vois, c'est un peu, je me fais ma checklist. Est-ce que je peux aller activer ces petits leviers dans le texte? Toujours, toujours très, très important de montrer, bon, ben voilà, pourquoi c'est moi? Là, tu es en train de lire un article, tu es tombé chez moi, pourquoi tu dois m'écouter? Pourquoi je suis l'autorité en la matière? Pourquoi j'ai déjà bossé?
De Cialdini sont super forts. La preuve sociale, la réciprocité, l'autorité, l'affection, l'engagement et la cohérence, la rareté et l'unicité qu'il a intégrée dans la partie persuasion. Si tu intègres, voilà, je suis une autorité parce que je suis un expert ou j'ai tant de clients, ou j'ai ceci, cela. La rareté, exactement. Comme tu as dit, tu ne peux pas le faire tout le temps parce que tu n'as pas
une promotion. Non, ce n'est pas tout le temps. C'est bon pour une page de vente. Page de vente, landing page, c'est très, très bien. Mais il faut toujours se dire, et c'est ça que certains débutants n'arrivent pas à vraiment ancrer dans leur tête. Ils disent, mais attends, dans chaque texte, tu vas le rappeler. Mais oui, parce qu'il faut comprendre que chaque nouveau texte, chaque nouveau contenu est une porte d'entrée dans votre monde. Et les gens, ils ne vous connaissent pas. C'est pas vous avez 400 lecteurs par jour, ce n'est pas les 400 mêmes. C'est à chaque fois 380 différents qui arrivent et 20 qui sont les mêmes qui vont tout lire. Donc, c'est pour ça que moi, je traite vraiment chaque contenu comme si c'était le premier, la première porte d'entrée, parce que ensuite, tu as le SaaS, vraiment le hall, tu vois, le lobby, tu rentres dans la maison. Ma maison, elle a 1000 portes, mais tu arrives à cet endroit qui va te dire « Hey, abonne-toi à la newsletter ». Et une fois que tu as la newsletter, tu vas avancer dans la maison, vraiment, à coup de une newsletter par une newsletter dans toute la séquence de bienvenue, jusqu'au moment où je t'aurais donné suffisamment d'infos pour que tu prennes une décision éclairée. Ouais. Et moi, je vois, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que comment je rédige, quelque part, je te dirais, c'est pas que je m'en fiche, c'est que j'ai une idée, ok, là, je dois mettre en avant, par exemple, le guide du copywriting, 2e édition, ok, c'est parti. PAS, comment je peux faire avec la structure PAS?
Alors, projet, problème, agitation, solution.
Problème, agitation, solution. Agitation au sens de tu vas tourner le problème de la personne dans tous les sens ou tu vas même aggraver le problème. Je prends toujours l'exemple de l'obésité, par exemple. Bon, aujourd'hui, tu es un petit peu essoufflé, c'est pas génial, mais demain, tu pourras pas courir avec tes petits-enfants, monter des marches, ça va devenir de plus en plus compliqué, les risques cardiaques, blablabla, tout ça, ok, tous les problèmes. C'est vraiment, j'aggrave, je tourne le problème dans tous les sens. Solution. Et tu donnes toutes les solutions que tu veux, salle de sport, manger mieux, coach sportif, pilule, whatever. Mais là, pour le guide, je reprends tout. Ok, on est parti. Autorité. Eh bien, je vais écrire un post sur l'autorité. Wow, 15 000 exemplaires vendus, c'est fou, c'est le meilleur. Jamais il y a eu plus en France.
Mais tu sais que ça marche bien parce que là, nous, on envoie des séquences d'emails et une des séquences d'emails qui marche bien, c'est déjà 600 inscrits et vous.
Mais bien
et là,
sûr.
Je dis, waouh, 600 inscrits, merde, c'est
Ah
un trop beau truc.
Mais complètement, et tu les prends un par un. Et c'est exactement comme ça que je travaille quand je bosse avec les boîtes qui me commandent une landing page et toute la séquence mail qui va avec pour ramener les gens sur cette landing page. Moi, je suis pas un, je suis créatif, mais je suis pas le créatif le plus drogué de l'univers. Je prends pas de drogue, donc j'ai pas des idées de folie. J'utilise les modèles qui sont à ma disposition et très souvent, ok, on y va sur Cialdini, on part sur le Soncas et ensuite j'ai ma liste dans tous mes livres de copywriting au-dessus. J'ai toute ma liste des questions de Dan Kennedy, j'ai toutes les questions de Eduardo Albuquerque, un copywriter de chez Agora aux États-Unis. J'ai toutes les questions de la superstructure, bien évidemment. Et j'aime bien tenir ce modèle-là parce que les infos qui sont dedans, en fait, elles sont universelles. Elles vont fonctionner tout le temps sur tout type de personnes. Il suffit juste de la preuve sociale. Déjà, quand tu dis, voilà, déjà 15 000 professionnels du marketing l'ont lu, et vous? Waouh, je suis passé à côté. Non, c'est pas possible. 15 000, c'est beaucoup. Tu vois, est-ce que je leur dis, c'est quoi une salle avec 15 000 personnes? Je ne sais pas ce que c'est. Un zénith, c'est 6 000 personnes. Tu vois, il faudrait qu'on arrive à 18 000 pour faire un bon truc. On va encore attendre un peu. Mais essayez toujours aussi d'écrire en image. Tu vois, quand tu me dis comment je pense, elle est où l'image? Et c'est là qu'on va aller mêler un peu le copywriting, trouver les bons mots, et le storytelling. Peindre des images. Parce que quand je te raconte l'histoire de Catherine qui, un matin, commence à s'endormir au volant et prend un poteau électrique à 20 à l'heure alors que ses enfants ils étaient à l'arrière du véhicule.
Ouais, ça met tout de suite une image.
Pour te parler d'une reconversion, elle savait qu'elle n'en pouvait plus. C'est ce jour-là qu'elle a décidé d'arrêter et de trouver un job où elle pourrait être maître de son temps, etc. Voilà, là, il y a de l'image.
Tu touches l'émotion, tu touches le
cœur.
Mais c'est
ça,
tout de suite dedans.
C'est ça. Et puis, au fil du temps, en fait, tu accumules, alors au fil du temps, ou même quand tu débutes aujourd'hui avec ChatGPT, tu vas lui demander, j'ai besoin d'une histoire crédible pour introduire. Mais exactement.
Non, mais c'est ça qui est... Mais c'est vrai qu'il y a aide aussi à faire un travail de base. Par exemple, tu vois, là, j'ai fait un challenge 30 jours il n'y a pas très longtemps.
Génial.
Et je lui ai donné le PDF. Et c'est vrai que quand je me suis dit, putain, je vais devoir rédiger 30 mails.
Ouais,
nom
dur.
De Dieu, 30 mails. Et puis je me suis dit, non, je vais lui faire bouffer ça. Alors, ce n'était pas tout le temps génial. Mais comme c'était des emails en fait d'entretien où il n'y avait pas à vendre, ben finalement ça m'a servi de bonne base et ça m'a fait gagner un peu de temps. Mais comme tu l'as dit, après tu dois toujours repasser dessus pour ajouter ton expertise, ton expérience, parce que autrement, comme tu dis, ça fait il y a un petit truc qui manque quoi. C'est pas...
Il manque toujours. Nous, on fait souvent le mardi midi, on a copy lunch et jeudi soir, on a copy night. Sur la copy night, on bosse pendant 2 heures et c'est là que parfois, je leur sors une séquence mail de 10 mails de lancement. On bosse ensemble sur des vrais business ou des faux business. Et OK, on y va, on a l'idée, on réfléchit, on bosse sur le marché, on bosse sur le client, on y va, on écrit, c'est parti. Et ChatGPT va nous aider. On regarde un peu, OK, qu'est-ce qui sort derrière? Bon, c'est faible. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a oublié de lui demander? Ah, on a oublié de lui demander du Cialdini, du Soncas, ok, on y va. Non, c'est pas assez. Qu'est-ce qui rend cette méthode ou ce produit unique? Allez, on y va, on repart, tu vois. Et en fait, toutes ces questions-là, bah, tu les connais quand tu es formé. Mais on revient au « you don't know what you don't know », ok. Si jamais tu n'es tombé sur ces modèles-là, si jamais de ta vie, imagine, tu es mal organisé, si jamais dans ta vie, personne ne t'a parlé de la matrice d'Eisenhower, tu ne peux pas savoir, ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs urgents et il y a des trucs importants et des trucs urgents pas importants ou importants pas urgents. Mais une fois que tu connais ces modèles en tête, tu réfléchis beaucoup mieux. Et en fait, plus tu en as, plus ça te permet d'être créatif. Parce que la créativité, c'est toujours ça, c'est assembler des idées qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles.
Ouais. Et justement, là, on parle sur des choses qui sont quand même du quotidien. Pour le copywriting adapté à LinkedIn, quels sont un petit peu tes conseils? Parce que tes posts ont quand même beaucoup de succès. J'ai adoré tes carousels. Tu as même fait une. C'est quoi ta dernière publication qui a cartonné?
Question pour un taux de conversion.
Ouais.
Tu as vu celle-ci?
C'est une vidéo. Oui, je l'ai vu.
Voilà, c'est une vidéo où je fais justement le A/B test. En gros, chaque semaine, j'envoie 3 emails. Dans ma newsletter Les mots magiques, j'envoie 3 emails. Donc à chaque fois, j'envoie un titre A et un titre B. Donc à chaque fois, j'ai des taux d'ouverture différents. Et là, j'ai décidé de faire une vidéo où je suis présentateur de ce jeu télé, où j'affiche à l'écran l'email A, l'email B. À votre avis, lequel des deux a gagné ? Gling, ça s'affiche en vert, le gagnant. Et j'explique pourquoi tel titre a gagné, pourquoi il était mieux écrit. Sauf que moi-même, si j'avais dû jouer, tu vois ce que je demande aux joueurs, le score, aux spectateurs, mettez-moi votre score dans les commentaires. Et en fait, même moi, si j'avais dû jouer, j'aurais mis 7 sur 10. J'aurais jamais eu 10 sur 10. Tu as toujours un élément de surprise. Il y a des titres où je me dis, non, mais c'est sûr, c'est celui-là qui va gagner, mais pas du tout. Pas du tout. Je suis passé à côté. Et parfois, tu as des écarts qui sont conséquents. Ça peut tirer à 2-3 points. 2-3 points d'écart, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand tu as des grosses bases mail.
Donc, question pour un champion de taux de la conversion en plus en poste en représentateur TV. Je trouve que c'est vachement sympa. Et t'es visuel, donc tu vises beaucoup donc sur le carrousel également. Tu alternes
2 fois par semaine. Oui. Ouais, 2 fois par semaine. Alors ça c'est mon secret de productivité. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi là-dessus parce que ça prend trop de temps. Tu vois, et on revient à cette notion du coût d'acquisition, c'est trop cher. Ça me coûterait soit du temps que je n'ai pas envie de mettre, soit ça me coûte de l'argent, je préfère payer. Et donc j'ai cette personne qui travaille pour moi, ce ghostwriter qui travaille avec moi, qui a de très très bonnes idées, on valide ensemble. Il y a une graphiste qui fait tout le montage, donc le mercredi, à chaque fois j'ai 2 rendez-vous, le mercredi c'est le mot magique de la semaine, et le vendredi, c'est le best-of de la semaine, les 5 posts que j'ai préférés.
Ouais,
en fait, c'est
ça,
très
je trouve
simple.
Que c'est assez fort. Hein. Je trouve que c'est assez fort, ça.
Écoute, tu connais la technique. Hein. C'est toujours, moi, j'ai regardé, j'enregistre ceux que j'ai bien aimés. Elle, la ghostwriter, elle va piocher dans toute la liste des 50 que j'ai mis cette semaine. Elle regarde un peu lesquels sont les mieux. L'objectif, il est double. Un, avoir un bon contenu utile pour tout le monde. Mais deux, surtout, tu mentionnes des gens, tu crées des petites connexions. Même si derrière, ce n'est pas l'amitié de l'année qui va naître, c'est peut-être une petite accroche qui, plus tard, fera boule de neige. Je ne sais pas. Tu vois, mais j'essaie de construire ça comme ça et tout le reste, c'est moi qui l'écris.
Ouais, tu fais même des petits sondages, j'ai vu un petit sondage, mais là encore une fois, c'est un moyen de créer de l'interaction et de ne pas uniquement être, donc je pousse de l'information, je vous dis que je suis le meilleur, etc. Je trouve que c'est important comme ça aussi de chercher en fait, d'échanger avec les gens, de créer du lien, quoi. Il n'y a pas que ça quoi, qui compte.
Je ne sais pas à quel point toi et moi, on n'est plus dans le vrai monde. Parce qu'on mange trop de réseaux sociaux depuis des années et on a vu beaucoup de monde arriver au fil du temps. Et aujourd'hui, je trouve que mais les créateurs qui sont full-time là-dessus, qui gagnent leur vie grâce à l'influence B2B sur LinkedIn, c'est fou. Moi, ce n'est pas
Ah,
mon
mais il y
travail.
en a.
Moi, c'est
Moi,
vraiment pas
je le
mon
vois,
travail.
je connais quelques créateurs, enfin, créateurs et créatrices,
Bien sûr.
et c'est vrai qu'ils ont créé une communauté. En fait, souvent, c'est en apportant de la valeur ajoutée avec du podcast, avec des vidéos, des interviews qui permettent justement d'aller gagner un petit peu de pas être sur sa propre notoriété, mais également valoriser les autres. C'est une bonne manière de faire aussi.
C'est ça. Et je pense que c'est pour ça toujours, hein, les invitations, parler des autres. J'avais un rendez-vous là qui n'a pas bien marché cette année. Pourtant, j'ai envie de le relancer. Vu que je forme des apprentis copywriters, moi, j'ai un épisode, enfin un slot le samedi, tu vois, dans ma ligne édito. La star du samedi, ça marche très bien, la star du samedi. Je prends un de mes étudiants et je lui donne mon profil. Vas-y, c'est ta case aujourd'hui. Tu mets ta tête, tu racontes ton histoire, tu vends ton expertise. Tu racontes ce que tu veux et tu as accès, au lieu de tes 500 ou 3000 followers habituels, tu as accès à mes 15 000 followers. Go, fais-en quelque chose. Tu vois, cette année, ça a eu moins de succès que l'année dernière. Donc, j'ai pas prolongé. On va voir. Mais pour LinkedIn, pour moi, c'est vraiment 3 thématiques max. OK? Quand quelqu'un débute, moi j'ai souvent aussi dans les gens que je forme la problématique de la double casquette. Ils sont tous là, genre aïe aïe aïe, mais comment je fais parce que je suis encore naturopathe, diététicienne à côté, mais en même temps je suis copywriter ou j'ai des fonctionnaires qui deviennent copywriter. C'est compliqué, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc, on parle un petit peu de ça. Et puis après, je leur dis vraiment, deux, trois thématiques max. Commence par ne publier que deux, trois fois par semaine. C'est déjà beaucoup. Pour un débutant qui passe de zéro inexistence numérique à exister, avoir deux likes, avoir peut-être des mauvais retours, ça fait peur. C'est tout un nouvel univers. Et puis surtout, quand tu leur dis, OK, ben là, c'est parti maintenant pour 10 ans, ça fait peur. Donc j'essaie de leur dire, OK, viens, on va voir sur 6 mois déjà ce que ça donne. Est-ce que tu arrives à planifier? Mais je n'ai pas autant d'idées. OK, ChatGPT, c'est parti. Tu vois, et tu mets en place cette méthodologie bah, que tu connais. À tes concurrents, qu'est-ce qu'ils ont posté? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui est bien? Ça, c'était bien, mais j'aime pas comment il a écrit. Je vais le réécrire à ma sauce. C'est pas dur. Normalement, dans nos jobs de marketeur, on est tous un peu créatifs. Et il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit: alors voilà mon template de créativité. Moi, je suis pas un créatif, mais j'ai une bonne machine qui crée à ma place. Fine. Je suis OK avec ça. Et le gars, il te disait comment, bon ben voilà, il identifiait, il passait dans son algorithme Twitter, enfin son algorithme, pardon, de ChatGPT, là, qui lui sortait derrière 10 sujets à partir d'un seul. Très bien, si tu veux. C'est pas comme ça que je fonctionne, mais lui, au moins, il
Oui,
gagnait
parce
du
qu'il y a
temps.
certaines personnes qui sont pas à l'aise à l'écrit et justement l'IA peut les aider à avoir
Ouais,
une
c'est
trame de
ça.
base. Et comme tu as dit, la
C'est ça.
vidéo, il y a des personnes qui sont moins à l'aise en vidéo et donc ils vont préférer autre chose.
Oui, bien sûr. Mais en regardant les chiffres, c'est pour ça une des bonnes grosses compétences pour l'avenir, la vidéo. Sûr.
Ouais.
C'est sûr.
Alors justement, et on va peut-être finir par ça, comment adapter le copywriting à la vidéo?
Et c'est ultra intéressant parce que là-dessus, tu vas avoir plein de tutos aujourd'hui qui tournent et tu vas taper hook TikTok, hook YouTube. Comment accrocher dès les premières secondes sur une vidéo? Et tu vas tomber sur toutes les recommandations. Moi, j'ai un pote, tu vois, que j'aime beaucoup. Je crois qu'il a passé la barre des 100 000. Il s'appelle Arnaud. C'est Very Good Lord sur Instagram. Lui, il fait de la mode. Il fait des montres, il fait de la mode masculine. Et il t'explique sur tous ces Reels qui ont marché ou ces TikTok. Salut, aujourd'hui, je vais te montrer en 5 secondes. Tu vois, il te dit vraiment, les 5 premières secondes, tu dois les éclater avec du mouvement. Et c'est pour ça, moi, je vois des vidéos de gens qui sont fous, tu ne te comporterais jamais dans la vraie vie comme ça. Et tu es obligé, OK, mouvement. Notre cerveau, tu le sais, il est fait
Ah,
pour
il a tiré.
capter le mouvement dans la savane, la moindre brindille qui branche, il y a un lion. OK? Le mouvement, on est attiré directement. Donc, il faut bouger. Il faut bouger, ça c'est le plus important pour capter l'attention. Tu as aussi des notions de contraste qui sont très très fortes. Contraste, typiquement, tu vois, bon contraste, ça va être ça, quoi. Hop, bleu et orange, on connaît la roue des couleurs. Eh ben, tu bosses ta roue des couleurs et tu fais quelque
Bah, c'est
chose
pour ça que
qui
souvent
bouge.
derrière les vidéos, il y a ces fameux éclairages qui permettent de ressortir et faire un éclairage qui est totalement, qui te fait ressortir et qui fait un fond coloré derrière.
Ouais, bien sûr. Ça, déjà, c'est les deux parties importantes. Et puis surtout, ensuite, moi, j'avais vu les règlements, comment tu dis, les tables de la loi, quoi, de Mister Beast, les 10 commandements, voilà, où il te dit, skip the context. Tu rentres dans la vidéo. Non, boum, directement, tu rentres dedans. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur tous les podcasts ou toutes les vidéos YouTube où tu arrives et directement tu as la grosse anecdote
Oui.
larmoyante
La
vraiment
punchline ou
agressive.
le
Ouais,
chiffre ou le truc.
exactement. La grosse punchline, boum. Salut! Dans cet épisode, tu vas découvrir, bim, c'est parti. Pich, merci à notre partenaire. Tu vois, mais il commence directement
Ouais, bah
par.
j'ai fait ça en matin, nanana, dadada, l'anecdote, tu dis putain, la vache, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que je l'avais vu plusieurs fois, ça. Et là, maintenant, bah, justement, beaucoup d'influenceurs en B2B commencent à faire ça, où il y a la partie de l'intro qui est tac, tac, je fais cette petite truc séquence un peu choc. Et après, on recommence sur l'intro, la pub à la moitié et à la fin, l'appel à l'action.
Exactement, parce que aujourd'hui, on ne peut plus prendre le temps. Waouh! Juste avant de te parler, Fred, j'étais sur Instagram, évidemment, et je vois une amie qui a posté une story. Demain, tu pourras aller au cinéma pour payer des films en accéléré. C'est-à-dire que tu avais
Oula.
une jeune fille vraiment de 24 ans qui disait: non, mais moi aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. 1h40 à regarder un film. Non, non, non. Là, tu vois, je le paye en accéléré. J'ai l'habitude d'être sur mon téléphone tout le temps. Mais ça représente un gain de 40-45 minutes pour moi. C'est des fous furieux. OK? Mais je crois qu'ils sont nombreux comme ça.
Je te dirais que moi, je regarde en accéléré sur YouTube quand il y a des podcasts et tout ça, parce que ou des webinaires, parfois, comme tu l'as dit, il y a des gens qui vendent leur sauce, qui font des introductions vraiment très très longues. Moi, dans l'introduction, ce que j'aime bien dire, c'est un petit mais pourquoi ça m'intéresse?
Oui, bien
Pourquoi c'est un
sûr.
sujet intéressant pour moi? Et quand je fais une présentation, je dis bah pourquoi il faut s'intéresser à ce sujet-là? Parce que ça. Et ça pose le sujet et les gens se disent ah ok d'accord, oui, ça me parle.
Mais
Et
c'est
c'est vrai
ça.
que si parfois il y a des gens qui te font la présentation de la boîte, moi j'essaie toujours de la limiter à 1 minute parce qu'il faut le faire, 1 minute 30 maxi, mais certaines personnes, des fois je les vois pendant 2 minutes de parler de leur boîte, mais ils disent putain mec, hey, arrête là.
Non, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Moi, j'ai vécu des vrais rendez-vous comme ça, hein, où le gars te pitche sa boîte, mais on s'en fout, parle-moi de moi. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant le copywriting, c'est parce que, en fait, tu vas parler au lecteur, tu vas parler au patient, tu vas parler au spectateur, tu vas lui parler de lui, de toi, ta douleur, tes attentes, tes besoins. Et c'est, le copywriting, c'est vraiment une autre manière de penser. Là où un vendeur pas trop 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 qualifié, il va parler beaucoup de lui, à quel point il est merveilleux. Non, non. Comment je peux t'aider vraiment à, point important, pas à changer ta vie, à améliorer ta vie. J'ai lu un copywriter des années 90, il disait un truc que je trouve très très vrai. Les gens ne veulent pas changer de vie, ils veulent la même, mais en mieux. Ils veulent 20% de mieux, tu vois? Et ce chiffre, il n'est pas con. Tu serais trop content avec 20% de salaire en plus. Moi aussi, 20% de salaire en plus, je me dis, hey, c'est déjà pas mal. Tu vois, t'as pas forcément envie de changer toute ta vie, mais juste améliorer un peu. Ce qui fait que sur les promesses, tu vas pas forcément faire des dingueries du type, il y a 4-5 ans, gagner 10 000 euros par mois.
Bah
Ouais,
oui.
bon, tu vois, je gagne 1 800, je travaille chez Decathlon ou chez Leroy Merlin, je vais pas gagner 10 000 euros demain. Ok? En revanche, aller taper la barre des 2 500 par mois, c'est déjà mieux. Tu vois, et c'est ça qui est important. C'est aujourd'hui, je pense qu'on va revenir. Tu vas avoir d'un côté très polarisant les gros vendeurs de rêves. Ça marchera toujours sur une partie de la population. Et tu vas avoir des gens qui vont te vendre un peu plus du Churchill, quoi, du
Ouais.
sang, de la sueur et des larmes et des résultats normaux.
Ouais, c'est vrai. Bon, alors justement, là on arrive sur la fin de notre interview et notre échange. Est-ce que tu peux me dire comment on fait pour se procurer ton livre et sur quel site internet on va, puisque en fait il y a l'achat du livre, mais il y a également tout ce qui est un espace où il y a des contenus supplémentaires pour aller plus loin dans le livre.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le guide du copywriting, vous le retrouvez à la Fnac, chez Cultura, chez Amazon et chez toutes vos librairies indépendantes. Soutenez les libraires dans tous vos villages, dans toutes vos villes. Si vous ne savez pas où aller le trouver, c'est les libraires indépendants en ligne. Vous tapez sur Google et vous trouverez où le commander. Et ensuite, c'est vrai que quand tu l'as, à l'intérieur, il y a une page spéciale avec un QR code avec les bonus. Comme ça, tu accèdes encore à des interviews exclusives, genre du meilleur copywriter de France. C'est pas moi, d'accord? C'est un mec qui est vraiment récompensé par des grosses récompenses en copywriting, par d'autres interviews, d'autres contenus pour aller toujours plus loin. Le site, au cas où, c'est www.les-mots-magiques.com. Le temps que vous arriviez dessus, normalement, il y aura un petit espace dédié au livre. Il y aura un petit onglet dédié au livre. Et puis après, c'est facile, quoi. Selim Niederhofer, comme ça se prononce, ça s'écrit facilement, tout ça.
Et on te retrouve en te googlisant directement sur LinkedIn. Ben, merci en tout cas, Céline, pour cet
Non, mais
échange qui
merci,
était
Fred.
passionnant. Et on va tous se précipiter pour acheter le guide du copywriting. À très bientôt.
Écoute, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Bye bye.